Le premier point de ce credo, il est demandé aux musulmans de croire en l'unicité de Dieu. Donc, c'est le Dieu un. Si nous connaissons un peu l'islam, ou si on en a entendu parler, on sait beaucoup que c'est ce point qui focalise en quelque sorte toute la religion musulmane et qui entraîne tous les autres points de cette doctrine. Croire en un seul Dieu, un Dieu unique, qui s'appelle Allah. Vous pouvez comprendre, d'après ce que j'ai dit hier, que cela se situait dans un contexte bien précis. Puisque l'islam naît dans la péninsule arabique qui est polythéiste, l'affirmation de l'unicité de Dieu est très très forte. Dieu un. Ouais, il n'est pas simplement le Dieu unique, c'est-à-dire c'est lui seul qui est Dieu, mais ce Dieu en même temps est un. Donc il y a une unité de ce Dieu, et cela s'oppose en quelque sorte dans la péninsule arabique à toute cette multitude de divinités et particulièrement à ces déesses qu'on appelait les Banat Allah, les filles de Dieu, donc Allat, Al-Manat et Al-Uzza, qui étaient donc considérées comme les filles de Allah. Alors Mahomet donc avec une très grande virulence au fil des années, va s'opposer particulièrement à ce panthéon divin des habitants de la Mecque, mais aussi de toutes les tribus arabes. Mais qu'est-ce que cela signifie de proclamer cette unicité et cette unité? Vous voyez, d'abord, Dieu est un en lui-même, il n'est pas divisible. Et en même temps, ce Dieu, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils, il n'a pas de fille, il est unique. Et à lui, rien n'est comparable. Alors, pour vous donner une idée de cela, je veux vous lire donc la sourate 112 ou la sourate 114 qui peut aider à comprendre ce que cela représente dans l'islam. C'est l'une des sourates, si vous voulez, qui résume en quelque sorte, c'est la sourate 112 que je vais vous lire, qui résume en quelque sorte, qui cristallise cette unicité de Dieu. Voilà ce que ça dit. Je vous le lis donc, la sourate 112. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam kufuwan ahad. Vous voyez, c'est ça. Comme vous comprenez tout ce que je viens de dire, alors je vous le lis en français. Donc ça commence comme ça. Dit Dieu, lui Dieu un, Dieu l'impénétrable. Il n'engendre pas, il n'est pas engendré, nul n'est égal à lui. Vous voyez, dit Dieu un, Dieu l'unique. Vous voyez, ça cristallise ici. Alors, pour aider à comprendre comment l'islam comprend cette unicité, vous voyez, ce qui est dit, il est un, il est impénétrable, il n'engendre pas et il n'est pas engendré, et nul n'est égal à lui. Donc, d'abord, il est un en lui-même. Disons, en quelque sorte, Dieu... Allah cristallise en lui toute la divinité. Il n'est pas composé de parties. Il est un en lui-même. Et cette unité est telle qu'elle est sans fissure, d'où l'impénétrable. On a traduit ce terme samad par impénétrable. C'est quelque chose qui est tout d'un bloc qui est sans fissure. Donc dans cette unicité-là, aucune fissure n'est possible. C'est-à-dire, rien ne peut entamer cette unicité. Et en même temps, ce Dieu... Il n'est pas engendré, donc il ne vient pas de quelqu'un ni de quelque part, et il n'engendre pas. Donc il ne partage pas sa divinité, ou en quelque sorte, il n'y a pas de Dieu qui découle de lui, mais il est unique. À lui, rien n'est égal. Il n'est pas un parmi d'autres, pour dire les choses. Alors, quand on prend ce verset, on comprend que, en quelque sorte, quand l'islam dit que Dieu est un, et que et qu'en quelque sorte cette unité est impénétrable, c'est une façon aussi de fermer la porte à toute affirmation trinitaire, par exemple des chrétiens. Vous voyez, si Dieu est impénétrable, cette unité est sans fissure, nous chrétiens, en disant que Dieu est unique, mais qu'il est en trois personnes, même si nous affirmons fortement l'unicité de Dieu, mais le fait de déclarer que les trois personnes de la Trinité sont tous un seul Dieu, nous introduisons en quelque sorte une fissure dans cette unicité que nous proclamons. Donc, ce qui signifie que tout musulman doit croire que Dieu est un, à la façon dont lui, le prophète Mahomet, a révélé.